Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute. Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme de cette émission exceptionnelle de mi-décembre, nous allons voyager dans le temps, nous allons retourner aux années 80. Et pour en parler, mais je pourrais dire mes deux chroniqueurs, mais finalement aujourd'hui on change de statut. Ouais. Mes deux invités, Sylvain Tastet de JV, bonjour Sylvain.
Bonjour.
Et Patrick Elio, bonjour Patrick.
Bonjour.
Et
oui, ouais,
c'est la première fois, tu es sur un siège d'invité cette fois-ci.
On va
parler aujourd'hui d'années 80 à l'occasion de la sortie Génération Jeux Vidéo Années 80, qui est une publication de JV, hein, voilà, donc
Wildfire Edition pour le
de Wildfire Edition. Et donc on évoquera les sujets comme ça. Donc ça c'est le programme. Et puis on va commencer quand même, parce que c'est la tradition, par une petite news intro d'un invité cette fois-ci. Voilà.
Patrick.
Oui, c'est vrai. Oui, petite news intro donc bien actuelle avant de plonger dans les années 80. On a eu les derniers chiffres de vente de Sony concernant PlayStation 4 et tout l'environnement. Donc la PS4 à début décembre est arrivée à 70 millions d'exemplaires vendus dans le monde. C'est quand même assez colossal. Hein. C'est quand même un beau carton. On peut mettre en parallèle avec la Switch qui a atteint les 10 millions d'unités vendues d'après Nintendo très récemment. Alors 70-10, ça paraît énorme, mais quand on sait que la Switch a fait ça très très rapidement.
Ouais.
Bon, on voit quand même que
des
performances.
Elle a quasiment rattrapé les ventes
colossal.
De la Wii U, quoi.
C'est assez colossal. Hein.
Et si on veut rapporter, ouais, le record absolu de la PlayStation 2, c'est 150 millions d'exemplaires.
Hein.
Et l'autre record un peu stratosphérique, qui était la Wii,
en
console de salon, c'était aux alentours de 100 millions.
Sur voilà, laquelle, 101, 102,
ouais,
je crois.
Ouais.
Donc là, 70 millions de PS4, c'est quand même énorme. Et puis, on a eu aussi des chiffres pour le PlayStation VR qui atteint 2 millions. Il était à 1 million, je crois, en juin dernier. Là, il a atteint 2 millions de parcs installés monde. Ça commence à devenir important. Il y a encore beaucoup de travail à faire parce que 2 millions 170 de parcs installés de consoles, ça reste encore. Il y a encore beaucoup de travail de développement, mais ça commence à devenir respectable. Et puis, une particularité qui a été annoncée aussi par Sony dans son communiqué, c'est que un peu plus de 12 millions de jeux ont été vendus au format PlayStation VR. Ce qui veut dire qu'il y a à peu près 6 jeux, je crois, par casque vendu. Ce qui montre qu'il y a quand même une appétence gens qui ont un casque pour du jeu vidéo, pour consommer du jeu en réalité virtuelle.
Peut-être qu'ils sont forcés à essayer de rentabiliser leur achat aussi.
Aussi. Mais oui, bon, en tout cas, c'est plutôt un signal intéressant de se dire que voilà, les casques font vendre du jeu. Donc, je pense qu'il y a une curiosité des joueurs une fois qu'on a acheté un casque, on a envie d'en profiter, donc d'expérimenter des choses. Et ce qui a été aussi rassurant, c'est qu'on a eu pas mal d'annonces ces derniers jours, entre le PlayStation Experience, les Game Awards aussi, je crois qu'il y a eu des annonces qui ont été faites. Notamment, moi, d'un jeu, je crois qu'on en avait parlé lorsqu'on avait chroniqué le jeu il y a quelques mois, c'est Wipeout, la compile Omega Collection qui était sortie donc sur PS4 en juin, qui va être adaptée en VR. On en avait parlé, je crois, lorsqu'on avait chroniqué le jeu. Je me rappelle m'être dit, mais c'est dommage, il n'est pas en VR. Et là, il va être mis à jour gratuitement, début 2018, a priori, avec un patch. Il va permettre de parcourir les tracés.
Ça peut être intéressant.
Ah, mais moi, je trouve ça génial.
Je pense que ça peut même changer beaucoup l'approche de Wipeout.
Et je me rappelle
d'une part, parce que, encore une fois, les jeux où on incarne un pilote
assis ont très peu de cinétose.
Ça dépend du rapport que tu as à l'environnement, toujours. Oui. Tout ça est très complexe, ça dépend de chaque personne.
Oui, mais beaucoup moins que si l'avatar bouge et toi tu restes assis. Ça, c'est généralement assez radical.
Ça dépend où se focalise ton regard aussi. Voilà. Et là, je pense que Wipeout, tu vas pas t'amuser à regarder sur les côtés. Tu vas être très focalisé sur l'avant. Et je pense que ça peut bien le faire. Et c'est vrai qu'on avait eu un accueil plutôt froid de cette compil Wipeout en disant Bah ouais, mais Wipeout, c'est un peu froid maintenant, ça a vieilli. Et là, je me dis que c'est peut-être un moyen de retrouver ce frisson Wipeout qu'on avait eu en 95, où c'était une vraie révolution technologique.
Je trouve ça assez intéressant. Ça mérite en tout cas.
Évidemment, lorsque ça va être à jour, et ça peut nous redonner ce frisson d'innovation de Wipeout, parce que là il y avait un côté un petit peu redite, et là ça peut ramener ça. Il y a une démo Last Guardian qui a été mise en ligne récemment. Il y a eu des annonces d'un Vacation Simulator, donc qui est un pendant du Job Simulator qui était sorti. Il y a pas mal de choses qui arrivent, et Doom VFR qui vient d'être sorti, dont on reparlera sûrement la semaine prochaine. Donc il y a de l'actu côté contenu, et c'est important de soutenir ce casque qui aujourd'hui donc est leader sur les casques haut de gamme de VR. Ouais. Donc aujourd'hui il a une place importante sur le marché. Espérons que Sony va continuer à le soutenir.
Ouais, c'est pas gagné quand même. Bref, on en parlera.
On va voir ce qui se passe en 2018.
Le Comme-Des-Comme d'il y a deux semaines, oui, parce qu'on est un peu sur un rythme, comment on appelle ça, quinzomadaire, en cette rentrée. Ça fait partie des bonnes résolutions de l'année prochaine de repasser à un rythme hebdo. On l'annonce dès maintenant. Donc, on avait parlé de Star Wars et de Call of Duty. On commence par France Buche qui dit, enfin, quelqu'un qui s'insurge. C'était moi. Je m'insurgeais. Je suis hyper fort là-dessus. Contre les FPS online avec de l'expérience. Oui, parce que j'ai toujours trouvé que c'était très bête de donner de l'expérience aux joueurs, ce qui déséquilibre après le jeu. J'avoue ne plus jouer en ligne depuis longtemps, mais je n'ai jamais compris cette mode d'avoir des parties en ligne déséquilibrées. De mon temps, on commençait tous nos parties, nos parties avec exactement les mêmes caractéristiques. Et soit ça ne bougeait pas, soit ça bougeait et on gagnait de l'XP ou de la monnaie virtuelle, mais à la fin du match, tout était remis à zéro. Je ne vois pas l'intérêt de donner un avantage objectif aux gens qui ont le plus joué. Ce sont déjà ceux qui, logiquement, devraient être les plus habitués au jeu et donc avoir un avantage sur les autres. Pourquoi booster leurs stats? Enfin, je suis malhonnête, je pose la question comme si je ne connaissais pas la réponse, mais la réponse est simple: pour avantager ceux qui ont acheté le jeu en day one avant même d'avoir pu lire les tests. Jérémy Israël, suite à l'émission, je suis allé acheter mon premier Call of Duty depuis Modern Warfare et j'ai labouré la campagne solo d'un trait. Le gameplay est toujours bien naze, mais ça reste du spray and pray. Mais l'histoire est poignante, les chapitres se développent finement et la tension ne retombe pas. Restons sérieux, malgré ce surprenant scénario, il s'agit d'un Call of Duty avec zéro évolution en 20 ans. Il n'y a à aucun moment besoin de réfléchir. Faites-le vous prêter si c'est le solo qui vous intéresse, parce que ça fait bizarre de ranger un jeu PS4 fini dans son armoire quand on l'a acheté le matin même.
Oui.
En même temps, on avait quand même mis les pincettes. On avait dit ça restait un FPS couloir. Les bases étaient les mêmes. Mais c'est juste que il nous avait étonné par quand même une ambition qui était autrement plus importante que Star Wars et que les derniers Call of Duty.
Après, c'est toujours multi. Effectivement. Quand on achète un Call of Duty, je pense que voilà.
Et enfin, Mika Muse, ou Mused, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis assez fidèle à votre podcast depuis un an ou deux, mais aujourd'hui, en écoutant tranquillement les débuts de ce podcast, en allant au boulot, j'aurais pu couper cette intro, je suis d'accord, mais bon, bref, certains propos m'ont vraiment fait réagir, et là, il parle des propos concernant EA et les lootbox, où on disait que Star Wars, c'était la licence populaire qui touchait un public très large, les lootbox sont ces boîtes surprises, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Enfin bon, tout ce qu'on a raconté dessus. Et voilà pour moi qui ai découvert FIFA l'an dernier, plus particulièrement le mode FUT. Je ne comprends pas pourquoi vous vous offusquez aujourd'hui de ce problème alors qu'EA pompe jusqu'à la moelle des milliers de jeunes gens, surtout la carte de crédit des parents, pour ouvrir des packs qui n'ont rien à envier à ces lootbox. Peut-être que EA a été intelligent de garder le nom pack, ça passe mieux. Juste pour se faire une idée, un joueur icône comme Thierry Henry coûte environ 4 millions de crédits. Un match en FUT donne environ droit à 500 crédits, donc faisons un calcul rapide, etc. Donc il faut 8000 matchs pour avoir Thierry Henry, c'est vrai que c'est un peu beaucoup. Il explique que finalement ce système
implémenté depuis un petit moment déjà dans certains titres.
Il est déjà sur mobile depuis très longtemps, c'est exactement ces ficelles-là.
Star Wars, il a synthétisé, il a attiré l'attention, il a polarisé vraiment.
Oui, et puis alors Star Wars, il s'agissait aussi du mode de jeu majeur c'est-à-dire le mode de jeu majeur proposé aux joueurs qui était directement dépendant de ça. Le mode FUT de FIFA n'est pas être un des modes de jeu. Sur NBA 2K, il y a aussi ce mode de jeu avec des cartes, avec des choses comme ça. Donc on peut aussi choisir de jouer à FIFA dans d'autres modes. Donc voilà, c'est là où le scandale Star Wars était plus parce que on achète Star Wars pour jouer en online, et donc c'est ça notre raison, notre principe d'achat, et on se retrouve finalement à être désavantagé, à être handicapé par le fait qu'on ne veuille pas investir plus que les quelques dizaines d'euros que coûte le jeu déjà.
Un contenu qui paraît naturel d'avoir en achetant le jeu.
Mais bon, bref, c'est pas le premier scandale et c'est pas la première fois. De toute façon, les achats in-game provoquent mécaniquement ce genre de choses quand ils ne sont pas uniquement cosmétiques. Donc voilà, c'est pas la première fois, c'est aussi un marqueur emblématique en cette fin 2017. Ça a mis aussi en lumière ce type de pratique. Bref, c'était les années 2017.
Ouais, allez,
on va remonter un petit peu dans le temps. Alors, c'est sorti, enfin vous avez commencé à JV l'envoi des livres parce que, alors, on ne peut pas appeler ça disclaimer, mise au point. Voilà, faisons tous ensemble une mise au point. Oui, c'est vrai que Patrick, ici présent, est un chroniqueur relativement régulier depuis 10 ans maintenant de Silence on joue. Alors, on pourrait se dire qu'il y a un problème, effectivement, à inviter un chroniqueur pour qu'il parle de son bouquin dans le cadre d'une promotion. Alors déjà, d'une part, bon, c'est pas forcément une promotion, on va pas forcément parler du livre uniquement, on va surtout parler des années 80. Et d'autre part, point complémentaire, ça m'aurait quelque peu contrarié de ne pas inviter Patrick qui sort un livre sur les années 80 alors que ça fait 10 ans qu'il ne bassine avec les années 80. Non, il ne bassine pas, mais que c'est un sujet, on va dire, récurrent dans Silence on joue, et que voilà, on a l'occasion de faire un focus sur ce sujet-là. Et enfin, dernier point, et c'est là aussi où c'est important, c'est que ce livre est quasiment déjà vendu. C'est-à-dire qu'il est déjà rentabilisé, il y a eu un Kickstarter l'an dernier. En début d'année ? Non, c'était l'an dernier.
C'était l'an dernier, en novembre.
En 2016, pour préfinancer cet ouvrage. Donc voilà, vous êtes en train d'envoyer au backer.
Un an plus tard, exactement comme prévu, nous l'avons fini.
C'est ça. Vous êtes en train d'envoyer les exemplaires au backer, donc de Génération Jeux Vidéo années 80. Donc voilà, effectivement, on peut considérer que c'est une promotion. Moi, je vous ai surtout invité pour parler du contenu. Et de ces années 80 là, et voilà, donc c'était ce petite mise au point. Je suis conscient que ça puisse peut-être choquer quelques-uns, mais voilà, c'était aussi une occasion un peu difficile, compliquée à rater, en tout cas pour moi. J'en ai tellement envie que voilà, c'est on peut vous dire, n'achetez pas ce livre, voilà, de la contre-promo. Ils l'auront déjà vendu assez de toute façon, c'est ça.
On sait plus quoi en faire,
voilà, vous savez plus quoi en faire. Bref, déjà, pourquoi avoir eu cette envie ? On parlera du contenu après, mais pourquoi avoir eu cette envie et ce modèle de financement Kickstarter ? Peut-être, Sylvain, c'est parti de toi ou de vous deux, je ne sais pas.
Pourquoi cette envie ? Très simplement parce que, déjà, nous, à JV, donc on sort un magazine tous les mois, qui est un magazine dans lequel on laisse une bonne part au rétro gaming, parce qu'on considère que le jeu vidéo, c'est pas non plus qu'une actualité, mais que s'intéresser finalement à l'histoire du jeu vidéo, c'est tout aussi intéressant et tout aussi pertinent aujourd'hui. Et on a tendance à beaucoup parler des années 90 parce que, vu l'âge de la rédaction, qui a une moyenne d'âge de 30 ans, on va dire, c'est surtout celle-là qu'on a connue, et qu'on abordait assez peu les années 80. Alors on s'est dit que c'était l'occasion était belle d'y revenir, justement, en profondeur, et pas juste de l'évoquer comme ça une fois en passant parce que le sujet aurait été trop dilué dans le magazine. Donc là, on s'est dit qu'on allait faire ça bien, avec un bon bouquin de 300 pages, et qu'on allait faire appel au meilleur, à savoir Patrick. Connaissions mon homme qui connaissait mieux les années 80. Non, pas moi.
Non, moi non plus. Donc là, il est sorti. Comment est-ce qu'on... Parce que vous avez choisi, tous les deux, là, cette approche chronologique qu'on va aussi avoir dans cette émission. C'est la meilleure approche pour aborder une décennie entière. C'est de se dire, on commence à 80, on finit à 89 et...
Je pense notamment sur une décennie comme celle-ci qui est vraiment fondatrice du jeu vidéo. Et on s'est rendu compte en se replongeant dedans, en essayant de décortiquer un petit peu les grandes tendances qui sont apparues. Chaque décennie est importante. Enfin, le jeu vidéo, il a une quarantaine d'années grand public, on va dire. Chaque décennie est importante. Les années 80, elles sont vraiment, vraiment capitales parce que on voit émerger les genres de jeux vraiment qui se cristallisent, qui prennent forme. On a, voilà, les machines qui apparaissent, les principaux constructeurs, les guerres de format, etc. Et tout ça s'inscrit vraiment dans une logique de succession, de tendance, de machines, de hardware qui arrivent, qui dictent aussi la créativité, parce qu'on est quand même dans une décennie où la créativité est vraiment bridée par des machines encore relativement modestes. Enfin, ça avance beaucoup en 10 ans, mais il y a vraiment cette partie de... On sent que les développeurs se battent contre les limitations des machines. Donc, c'est difficile de passer outre cette évolution technologique en 10 ans, qui est vraiment fulgurante. Entre 80 et 89, on sent vraiment une évolution folle. Et puis voilà, encore une fois, cette tendance qu'on a vraiment essayé de marquer dans le livre, ces tendances qui s'inscrivent vraiment dans des années capitales avec des grandes évolutions de technologie, mais aussi de façon d'appréhender les gameplays, de penser le rapport du joueur avec le jeu, etc. Donc effectivement, oui, c'est difficile sur une année aussi, enfin sur une décennie aussi chargée comme ça en évolution, de passer outre la progression des technologies et de la manière d'aborder même le gameplay.
Alors vous n'échappez pas dans le livre à un peu l'exercice obligé qu'on aborde une décennie, c'est d'aborder la précédente. Mmh. C'est vrai que la précédente, finalement, c'est une introduction. Du jeu vidéo, c'est là où le jeu vidéo naît au public. Oui. Voilà, 1972, Pong et l'Odyssée, c'est l'accession du public au jeu vidéo. Avant, c'était Space War.
C'était un privilège de chercheur,
Tout le monde n'avait pas un PDP-1 dans sa maison, donc c'était un peu compliqué. Là, Pong, que ce soit en 72 ou en 75-76 avec Home Pong, quand ça arrive à la maison, c'est la décennie d'avant, c'est la décennie Pong, finalement. C'est là où cette bascule de fin 70, début 80, ouvre le jeu vidéo vers d'autres genres, vers d'autres... L'explosion, elle est dans les années 80.
L'explosion grand public, on va dire. Si on se focalise sur les années 80, ça c'est un choix de vie après. On peut le faire au quotidien. Si on se focalise dessus, on peut se dire que les années 70 ont préparé vraiment cette explosion des années 80. Pour moi, les années 80, c'est ça, c'est la décennie de la démocratisation des technologies, comme j'en parlais, les évolutions techniques des machines, mais aussi les évolutions du rapport du public aux jeux vidéo aussi. C'est le jeu vidéo qui devient un objet de pop culture, qui devient un objet qui s'inscrit dans le quotidien de tout le monde. Alors que ça n'apparaît vraiment que à la fin des années 70, lorsque l'arcade commence vraiment à devenir vraiment importante
Surtout une question de modernité, en fait. Tu disais tout à l'heure que les années 70, c'était un peu la décennie de Pong. Et c'est vrai. Et tu vas avoir, au début des années 80, beaucoup d'arcades. En fait, le jeu vidéo est hors de chez soi. Parce que chez soi, justement, tout ce qu'on peut avoir, grosso modo, je schématise, c'est un peu faux, mais c'est des machines Pong ou alors ce genre de petits jeux. Les jeux, on va dire, qui en jettent sont en salle d'arcade. Ils sont sur un hardware beaucoup plus puissant que ce qu'on a. Et tous les jeux, même qu'on a à la maison sur une Atari 2600 ou comme ça, sont des portages un peu ratés, un peu en dessous de ces jeux qu'on aimerait avoir chez soi mais qu'on n'a pas. Et en fait, il y a un shift à un moment qui se fait dans la décennie et tu te rends compte que les jeux commencent à être faits non pas pour des machines d'arcade qu'on portera après sur console, mais directement pour console, pour un jeu domestique. Et là, le rapport change. C'est-à-dire que tu vas changer le rapport au continu, par exemple, dans ce truc-là. Tu vois que t'as en borne d'arcade, tu vas avoir les premiers continus, genre de trucs. Là, tout d'un coup, tu arrives sur un système de jeu moins punitif, un peu plus narratif. Tu prends plus le temps de poser. Donc, il y a vraiment une espèce de format qui va dicter un peu le contenu, clairement, des jeux.
Ouais, et puis je pense qu'il faut évacuer l'éléphant dans la pièce tout de suite. Enfin, je pense que dans l'histoire du jeu vidéo, on a tous une décennie qui nous est chère de façon subjective parce que c'est là où, en général, c'est là où on découvre le jeu vidéo. Moi, c'est là où je l'ai découvert dans ces années-là où vraiment il y avait un foisonnement créatif complètement fou. Enfin, ça partait dans tous les sens et c'était passionnant de ce qu'on a voulu aussi faire passer dans ce livre, cette sensation que tout était possible dans cette décennie-là. On sent les genres de jeux qui se dessinent, qui se profilent. des machines qui sortent dans tous les sens. C'était un peu la jungle au milieu des années 80.
Beaucoup de machines qui partent à la casse en quelques mois.
Mais enfin voilà, moi je suis arrivé dans le jeu vidéo dans ces années-là et c'était passionnant de voir. Moi, c'est pour ça que cette décennie, elle m'est chère en tant que joueur, parce que c'est la décennie de la découverte. De façon, c'est très subjectif hein, aussi. Je pense qu'on a mis beaucoup aussi de subjectivité dans ce bouquin, et c'était un choix assumé de dire, bah, on parle des jeux qui nous sont chers, qu'on a connus, qui nous ont ouvert des pistes d'imaginaire. Il y avait beaucoup d'imaginaire à l'époque, on convoquait beaucoup de choses qui venaient de jeux vidéo ou d'ailleurs. Et enfin, en tout cas, voilà ces décennies où moi je suis entré aux jeux vidéo et ça a été pour moi une révélation. Je me rappelle encore des premiers mois de découverte du jeu vidéo. C'était vraiment l'impression de mettre le pied dans un monde qui était bouillonnant, qui partait dans tous les sens, et c'était assez fou de découvrir le jeu vidéo à ce moment-là. C'était vraiment incroyable. Et pour rien au monde, j'aurais découvert le jeu vidéo à un autre moment.
Alors moi j'ai noté, on va revenir, donc du coup, les années 80, ça commence en 1980, ça se termine en 1989, c'est imparable. Et je trouve que les années 80 commencent avec deux événements moi, que je trouve assez importants dans le jeu vidéo. Avec d'un côté les Game & Watch qui débarquent. Et ça, tu parlais tout à l'heure de jouer chez soi.
Ouais.
Mais là, on a une appropriation totale du jeu vidéo. Ça devient son réveil, ça devient son objet, ça devient un objet qu'on garde, qu'on peut amener chez les copains. C'est très étonnant, ce Game & Watch.
Oui, bah, c'est surtout aussi, on va dire, une première incursion vraiment réussie de Nintendo, on va dire, dans la poche de tout le monde. Ils avaient déjà avant ça des clones de Machine Pong, ce genre de choses. Ils en avaient déjà sorti. Mais là, c'est vraiment des créations originales et un truc qui marche vraiment. Parce qu'on oublie un peu vite aussi que entre l'arcade et le jeu domestique, c'était aussi une période propice aux jeux électroniques. Ce qu'on n'a plus aujourd'hui, qui a disparu. Mais quand on regarde un peu aujourd'hui les différents modèles de Game & Watch qui ont été faits, puisqu'il y en a plein pour le coup, on voit déjà l'ADS avec les deux écrans, ne serait-ce que le format, et plein de petites idées qui seront reprises plus tard par Nintendo, la croix directionnelle, ce genre de choses, qui sont aussi déjà rien que derrière ce genre de création. Il y a déjà beaucoup d'anecdotes, quoi, rien que pour comment est-ce que tu crées la croix directionnelle, ce genre de truc. Et donc, avant même que Nintendo devienne un empire vraiment dédié aux jeux vidéo, quand ils faisaient encore du jouet quelque part et qu'ils se disaient « Tiens, on va tenter ce genre de truc parce que les gens aiment bien ce genre de petits jouets », c'était fou de voir à quel point ils avaient déjà réussi à sentir quelque chose de puissant.
Et aussi des jeux qui restent, qui rentrent pratiquement directement dans l'imagerie populaire. Ouais. On reconnaît les jeux Game & Watch.
Les bruitages aussi.
On reconnaît les bruitages. Enfin, ça rentre direct dans la pop culture. Enfin, c'est quelque chose qui est généralisé avec des clones. C'est tout n'est pas. Il y a les Game & Watch et il y en a plein d'autres. Et c'est assez impressionnant. Et la même année, la première mascotte du jeu vidéo qui arrive, et ça c'est aussi capital, avec Pac-Man, qui est là pour le coup un succès absolument fulgurant. Et vérité, parce que
quand on se replonge dans Pac-Man aujourd'hui, on se rend compte de la richesse du jeu, de sa complexité, malgré, c'est vrai, une apparence plutôt, Pac-Man, tout le monde connaît. En termes de gameplay, c'est un titre qui apporte plein d'innovations en termes de ressenti de joueur. Il y a un stress qui se développe pendant la partie. Il y a un rapport à l'environnement bien particulier qui se développe. Enfin, il apporte pas mal de choses vraiment qui sont vraiment innovantes, quoi.
Il y a même du lien avec les ennemis. Je veux dire, tu finis par avoir ta bête noire. Selon comment tu joues, tu vas détester plutôt le bleu ou plutôt le rouge parce que tu sais qu'il y en a un qui va te prendre à revers ou un qui va tout le temps suivre à la trace.
Alors les quatre fantômes ont quatre stratégies différentes.
Différents. Et puis c'est un des premiers personnages qui va rejaillir en dehors du jeu vidéo, qui va prendre une aura, qui va devenir très grand public, qui va faire la une de grands magazines, qui va devenir un étendard du jeu vidéo en général.
Ouais.
Et ça c'est une des premières de
sortir de partout et plaire à tout le monde. Je me souviens parce que pour regarder ça un peu et pour essayer de voir l'impact qu'avait pu avoir ce jeu à l'époque, j'avais regardé les archives du Times de 80 qui avait fait une couverture avec Pac-Man homme de l'année et il y avait un très long papier en fait où le mec qui avait écrit le papier, j'ai plus le nom du journaliste, mais bref, s'étonnait qu'il y ait des Pac-Man jusque dans les salons de coiffure pour femmes. Le mec était là, vous imaginez à quel point ce jeu est un succès, enfin c'était vraiment ça débordait dans toute la culture, c'était effectivement plus on va dire plus facile et plus immédiatement sympathique que les petits bonhommes de Space Invaders, même si aujourd'hui on les voit encore plus.
Pac-Man est aussi le premier jeu à profiter de, alors tu l'as évoqué tout à l'heure, mais à profiter d'un game design profond. Enfin, c'est avec énormément les fantômes différents, des niveaux de difficulté qui s'accroissent, mais avec des points de bascule à un moment où les fantômes deviennent plus rapides que Pac-Man et il faut tourner en diagonale parce que c'est le moment où Pac-Man va plus vite. Avec, enfin, il y a énormément de choses qui viennent de là.
Sensation d'imprévu un petit peu qui impressionne à l'époque. Hein,
Et un nombre de bornes d'arcade record installées, c'était vraiment un phénomène qui a amené, on en reparlera quelques années plus tard, à une autre catastrophe parce que les gens, comme tu le disais, avaient envie d'avoir Pac-Man chez eux aussi.
Ouais.
C'était un des problèmes.
Il a été porté sur tout d'ailleurs. Hein.
Ah oui, sur à peu près, même malheureusement l'Atari 2600. Ouais. Voilà,
c'est ça, dont on va parler.
Et c'est un jeu intéressant. Voilà, il vaut le coup de s'y replonger. Voilà, il apporte plein de choses, il pose plein de...
Ouais, ça a été le troisième très grand titre quoi, dans les années 70. Ouais. Tu vas avoir Pong qui va marquer vraiment un début grand public. Tu vas avoir derrière Space Invaders qui marque évidemment une espèce de réveil japonais, même s'il y avait déjà beaucoup de jeux japonais à cette époque-là, mais celui-ci avait vraiment un succès qui était, on va dire, comparable à Pong. Et derrière, il y a Pac-Man qui a tout supplanté. C'était vraiment... On est vraiment dans les tout débuts, quoi.
Ouais.
C'est limite le Big Bang, les trois explosions, et après le train est lancé, tu vois.
Suite du Big Bang, Donkey Kong, quand même. Hein. Enfin, ça, c'est, ça, c'est pour l'histoire. Finalement, j'ai l'impression aussi que là, dans ces années-là, on est tellement dans cette explosion-là qu'on a l'impression d'avoir entendu et réentendu. C'est des histoires qu'on connaît. Enfin,
ouais,
voilà,
bien sûr,
Donkey Kong, c'est Shigeru Miyamoto, c'est Jumpman qui deviendra Mario plus tard. C'est énormément d'histoires autour de Donkey Kong.
Bien sûr.
Ça faisait partie aussi du plaisir, je pense, d'écrire ce bouquin-là. C'était de replonger dans certains jeux que tu crois connaître un peu de loin, où tu te dis « Attends, oui, je connais cette histoire ». Et puis essayer d'aller voir derrière la légende ce qui est vrai ou pas, à quoi est-ce qu'il faut s'en tenir, et c'est parfois pas si simple que ça d'arriver
à ce vrai du faux. Ce qu'on retient 30 ou 35 ans plus tard, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en retient, qu'est-ce que ça a pu apporter, et ça c'était un challenge aussi d'aborder des jeux un peu moins connus, ça c'était aussi quelque chose qu'on a tenu à faire, avoir les classiques, mais aussi des titres un peu moins... qui sont à découvrir dans le bouquin.
Et donc Kong, il a laissé quoi?
Des personnages, toute une imagerie.
C'est surtout qu'on y voit Jumpman qui finira par être, parce que c'était un perso que Miyamoto appelait Monsieur Vidéo, on rentre encore dans les histoires qu'on connaît toujours, qui voulait utiliser dans tous ses jeux en fait. C'est pour ça que le jour où il a voulu tenter de faire une espèce de Mario, donc de vraiment passer à autre chose avec un scrolling différentiel sur le truc, il voulait pas risquer en fait Donkey Kong qui était quelque part son espèce de star, et plutôt essayer d'envoyer Mario au charbon. C'était assez intéressant de voir que finalement immédiatement Donkey Kong est devenu perso de seconde zone.
Et en 81, déjà, il y a Ultima. Alors pour le coup, c'est ça. Ça, c'est une marque, c'est une licence qui naît aux origines du jeu vidéo. Enfin,
qui va perdurer pendant...
Richard Garriott est très jeune à ce moment-là, au moment où il fait ça. Il a déjà fait Akalabeth, je mélange tout le temps les noms.
Son premier jeu auto-publié, je crois.
Ouais, c'est ça, qui a bien marché. Et derrière, donc, il fait Ultima, qui est assez étonnamment, en fait, qui va avoir beaucoup de succès. Alors déjà, dans le monde, certes, mais particulièrement au Japon. Et quand tu vois des années plus tard en sortir des jeux comme Dragon Quest ou comme ça, c'est quasiment des recopies exactes d'Ultima, mais les mecs s'en sont toujours parmi en fait d'Ultima.
Oui.
Encore aujourd'hui, tu vois ce système d'ennemis un peu random et tout, c'est quasiment encore la même chose. Le RPG japonais, c'est quasiment encore Ultima.
Ouais, c'est ça
qui est très étonnant.
Qui est impressionnant.
Ils ont retourné sur quoi Ultima?
C'est pas Apple 2, non?
C'est très possiblement un Apple 2, mais je peux mettre la certifiée.
On avait fait la recherche là-dessus.
D'accord.
Je peux pas te le certifier.
Mais il n'était pas sur les consoles.
Non, c'est sur micro, c'est certain.
C'est plutôt le sens de ma question.
Oui,
on était sur les premiers jeux micro.
Oui, carrément.
Ouais, et avec un impact, voilà, c'est un impact direct sur le reste du jeu vidéo. On est en 81, c'est quand même un jeu de rôle graphique. En 81, c'est assez dingue avec un scénario.
Mais après, il avait ce système de petits combats en 3D. Enfin, les affrontements, on les faisait en vue subjective quand on partait dans les donjons, ce genre de trucs. Il avait déjà ça dans son jeu précédent, ouais. Et c'est un truc qui avait fasciné. Comment ce mec-là, avec trois espèces de, il avait juste des vieilles perspectives. Alors, il tirait juste un trait pour donner l'illusion de mur sur les côtés. C'était un peu de la 3D pleine, tu vois. Ouais. Mais malgré tout, la sensation d'immersion marche très très bien. Et c'était, tu te sentais vraiment dans le donjon.
C'est aussi des années, je pense, qui sont attachantes pour pas mal de joueurs, parce que il y avait aussi le joueur devait beaucoup s'investir dans les jeux. Voilà, comme tu disais, c'était souvent assez sommaire visuellement. Donc le joueur avait tendance à beaucoup s'impliquer. Enfin, moi, je le vivais beaucoup à l'époque comme ça. C'est qu'on mettait beaucoup de soi, en fait. L'imaginaire tournait à plein régime pour combler aussi des déficits visuels. On le voyait aussi dans tout le travail des jaquettes, des packaging. Il y avait des jaquettes assez exubérantes, avec beaucoup de couleurs, etc. pour aussi créer des univers autour de titres qui, à l'écran, étaient souvent assez sommaires. Ouais. Et ça, c'est aussi ces premières années où... ça fait partie, voilà, du jeu vidéo de ces premières années, d'avoir des... Vraiment, de contribuer beaucoup à...
On pouvait aussi se sentir floué, hein. Avec quelques jaquettes, chacun a une histoire.
Ah bah là, t'avais vraiment deux catégories de titres. T'avais les titres qui pouvaient tromper sur le visuel. Et puis c'est là que tu vois les bons titres qui survivent justement au fil des années et qui restent aujourd'hui.
Il y avait aussi vraiment un côté surprise finalement. Parce que c'est une époque où il y a tellement peu de codes déjà préétablis et ancrés aussi bien chez les joueurs que chez les développeurs qu'à chaque fois que tu pouvais acheter un jeu, t'avais des chances que ce soit complètement surprenant, que ce soit un truc vraiment nouveau. Aujourd'hui, de loin, le jeu, tu peux déjà poser une petite étiquette. Là, il y avait des... Enfin, il y a des trucs genre Tempest, une espèce de... Enfin, c'était juste... Tu sais pas vraiment ce que t'achètes à la base. Et ça, c'est vraiment très singulier. Je pense que le côté avoir de la vue subjective comme ça dans un RPG, ça fait partie de ces trucs-là. T'es pas juste en train de jouer à Donjons
et Dragons. 2, hein, pour la sortie d'origine d'Ultima. Dans le livre, vous abordez évidemment les jeux, vous abordez aussi par les années les grands mouvements liés aux années. 1981, on ira plus vite, hein, après je rassure les auditeurs et les spectateurs, mais c'est le début de la presse jeux vidéo. C'est l'apparition d'un nouveau type de presse spécialisée, en fait.
Ouais. C'est l'apparition des premiers titres qu'on peut voir, on va dire, outre-Atlantique, qui commence à arriver. Et qui vont donner l'année suivante, donc en 82, la naissance de Tilt, en fait, qui devait être à la base une traduction d'un magazine américain dont le nom m'échappe là tout de suite. Bref, mais c'est très vite pas devenu quand même une traduction parce que ça paraît compliqué. Déjà que les bornes, enfin, le problème c'est que les news et les magazines traversaient l'Atlantique beaucoup plus vite que les jeux. Donc, si les mecs de Tilt s'étaient retrouvés à non seulement parler de jeux qui n'étaient pas sortis en France ou de parler de jeux de football américain qui parlent absolument pas à un public français, tu te rends très vite compte que traduire l'actualité du jeu, ça peut pas marcher. Donc, ils ont vite pris leur envol avec des codes particuliers finalement parce que toutes les presses ont un peu posé leur propre code et c'était assez marrant de pouvoir rencontrer d'ailleurs Jacques Arbonne à l'occasion de cet article parce que c'est un garçon, un monsieur qui a fait sa carrière du début jusqu'à la fin de Tilt donc qui a passé très grand nom de Tilt et c'était marrant de pouvoir revoir comment est-ce qu'on écrivait un magazine en 81, en 82, enfin...
Et puis, une presse qui avait quand même, en tant que joueur, avait quand même un statut très particulier. C'était notre unique point de connaissance du jeu vidéo à l'époque. Enfin, c'était vraiment le passage obligé au début des années 80, pour avoir des infos, pour s'enseigner sur ce qui se passait.
C'était autant partie que les jeux, en fait, de la culture du jeu vidéo.
Pour moi, c'était vraiment la référence. C'est vraiment les premières lectures que j'ai faites. C'était vraiment le point de passage obligé...
Alors évidemment, moi, quand j'ai parcouru le livre et le sommaire et tout ça, et que j'étais là en train de préparer l'émission, de quoi on va parler, moi j'ai forcément... C'est marrant parce que c'est aussi un miroir, hein, ce genre de choses, et j'ai ressorti les éléments qui me parlaient, les souvenirs, les choses comme ça. J'ai ressorti Dig Dug, pas pour Dig Dug arcade, mais pour Boulder Dash, qui était une variation, hein, ce jeu où il faut creuser pour... C'est des petites variations d'un gameplay mono-écran comme ça qui était au début des années 80 encore la norme. Hein, on ne sort pas de l'écran. Hein, on est chaque niveau, c'est
ça
à l'intérieur.
Ça commence doucement à se faire, mais c'est encore balbutiant.
C'est encore balbutiant.
Fixe, ouais.
Ouais. Zaxxon.
Ah, les Zaxxons.
Zaxxons, hein. Donc
et parce qu'à l'époque, on n'a pas encore de 3. Enfin, la 3D est quand même très difficile à manipuler, donc il faut trouver des astuces. Hein. Il faut trouver. Ouais. Alors, ça peut passer par le 3D fil de fer comme Battlezone, qui était le jeu de tir, de combat de chars, etc. Ou Zaxxon, qui avait cette mise en scène vraiment ingénieuse de donner cette sensation de relief, de volume. Et ça marchait vraiment.
Avec un truc que je continue à trouver incroyable sur Zaxxon, c'est la jauge de hauteur.
Oui, mais qui est
vitale. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait cette fausse 3D comme ça, isométrique, mais où on ne peut pas. Alors, il y avait l'ombre du vaisseau qui permettait d'estimer le truc, mais on est dans un jeu de tir, il faut de la précision, donc il y avait la jauge de hauteur donc pour nous dire exactement où on est.
Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de voir les limitations de l'époque technologique et la manière dont les développeurs cherchaient toujours à trouver à envoyer du rêve aux joueurs aussi, de créer des nouvelles représentations, nouvelles mises en scène, et finalement de transfigurer ces limitations et de ressentir l'effet de dimension, l'effet de relief. Et ça, c'est passionnant.
Alors, on va passer vite dessus parce qu'on a tellement de choses plutôt positives dont il faut parler. Mais quand même, fin 82, c'est la sortie de E.T. Pour Atari 2600. En 82, il y a aussi eu l'adaptation de Pac-Man pour Atari 2600, qui a été une déception monstrueuse avec des retours à l'envoyeur hyper nombreuses parce que les gens voulaient acheter Pac-Man, ils se sont retrouvés un jeu absolument atroce.
Le portage, il faut voir les images de cette version-là, comparer la version arcade et la version 2600. Waouh, tu peux te sentir volé, effectivement.
Voilà. Et E.T. qui amène beaucoup d'espoir, hein, parce que c'est beaucoup de gens ont vu le film de Spielberg, et ce jeu qui arrive, qui est absolument incompréhensible, qui aujourd'hui est une pièce d'étude fascinante, parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, on tombe dans des trous, il faut récupérer des pièces de téléphone.
C'est parfaitement nébuleux. Voilà. Tu vois le film, tu prends le jeu derrière, tu essaies de comprendre, attends, c'est qui lui si je le mets dans le film, et t'es pas sûr en fait. Ouais. Jusqu'au bout, t'es pas sûr. Tu sais jamais comment est-ce que t'es censé prendre ce jeu. Mais c'est un jeu qui a étonnamment cristallisé, on va dire, tout l'échec du jeu vidéo américain en 83. On dit souvent que c'est le jeu qui a flingué toute l'industrie américaine en 83.
C'est un peu ça,
mais
c'est
vraiment ça, ouais, il a porté le chapeau quand même plus que ça. Je veux dire, si on prend l'exemple de Pac-Man, Atari était tellement fou qu'ils avaient sorti plus de Pac-Man pour Noël 82 qu'il n'y avait d'Atari 2600 de vendu.
C'est ça.
Il y a un optimisme qui confine à la bêtise au niveau-là.
Oui, et puis surtout ce sont les emblèmes de d'un phénomène de ce début d'année 80 où finalement les développeurs, il n'y a aucune responsabilité des créateurs pour faire de bons jeux. Ouais, c'est-à-dire les jeux qu'on sort se vendent, pourquoi se fatiguer à faire des bons jeux? Et finalement l'apogée c'est Pac-Man et E.T. mais sur 2600 il y a quand même un catalogue de
jeux purement promotionnel pour des marques de croquettes ou des trucs comme ça, on l'évoque aussi. C'est tragique. Ouais. C'est-à-dire que limite, t'achètes ton sac d'aliments et puis on te donne une cartouche de jeu avec.
Donc, 1983, c'est ce qu'on appelle le crack des jeux vidéo aux États-Unis, hein, où plus personne veut en entendre parler, surtout pas les chaînes de magasins de jouets, qui étaient quand même les premiers revendeurs de plateformes de jeux. Aux États-Unis, le jeu vidéo est considéré comme...
Il y a un climat de défiance comme terrible.
Hein, c'était une mode. Mais ailleurs dans le monde, il y a...
Il y a toujours le décalage. Voilà.
Ça reste vivant. Le jeu sur ordinateur, c'est le pet joystick qui s'appelle Track and Field, hein. Donc moi je sais que il y a des joysticks qui sont partis au cimetière pour
ils en ont fait vendre des tonnes, hein.
Ah, c'est ça,
hein. Décathlon, enfin toute la mode des jeux comme ça sportifs qui arrivent et qui vont péter les manettes, quoi.
C'était très drôle et quand même ce jeu absolument improbable qui est Dragon Slayer,
ouais, qui est en arcade. Bah,
Dragon Slayer, pour le coup, merveille technologique.
Merveille
technologique. C'est-à-dire que tu as, en 83, en arcade, grosso modo, tu as Pac-Man et à côté, il y a Dragon Slayer. Oui. Tu vois la différence entre les deux. Il y en a un, c'est un dessin animé fait par les studios de Don Bluth. C'est, c'est un ancien Disney, donc tu as vraiment une fluidité de l'animation. C'est un dessin animé sublime qui utilise en plus une technologie... une technologie très novatrice vu qu'il est sur Laserdisc et que le créateur de ce jeu a été le premier à utiliser vraiment le, ou du moins à se dire qu'il utiliserait le Laserdisc comme autant de, on va dire, de chapitres. Il a fait un livre dont vous êtes le héros et en fait selon qu'on aille à droite ou à gauche, il saute, il va enchaîner et dérouler devant nos yeux un jeu, comme tu dis, vaguement interactif, mais quelque part, enfin, c'est pas grave parce que c'est tellement beau que même si le truc te plume et te prend pièce sur pièce, t'as quand même envie de jouer à ça parce que c'est juste
que
sublime.
Il est proprement injouable.
Ouais, y a pas de gameplay est complètement.
Même quand on sait quoi faire, c'est quasiment impossible d'avoir de récupérer le timing. Ouais. C'est assez marrant. C'est la saison 2 de Stranger Things qui commence là-dessus, sur une partie de Dragon Slayer. On voit, enfin, même quand on sait très exactement sur quelle touche appuyer à peu près quand, pour avoir le timing parfait, c'est du plus que par cœur.
C'était casier expérimental. Je crois que les laserdiscs tombaient très vite en panne parce que la platine.
Plus de chance en fait en poussant la borne et en faisant sauter la lentille. Pour essayer d'aller plus loin dans le jeu.
Même en termes de techno, c'était pas très viable. Enfin, il y avait un côté assez presque expérimental finalement.
Le lecteur n'était pas fait pour autant changer.
Faire de la recherche de lentilles comme ça, c'était fait pour lire un film linéaire. Et puis là, la lentille.
Le constructeur n'avait pas été mis au courant que le truc allait tout le temps sauter. Au bout d'un moment, la lentille n'arrivait plus.
Beaucoup de panne. Donc, c'était une sorte de fulgurance comme ça, techno, à un moment donné. Et puis ça a quand même posé vite des problèmes de gameplay et puis de tenue technique.
Le temps d'une année, ça a quand même fasciné toute l'industrie. Il y a eu beaucoup de jeux qui ont suivi son modèle, aucun n'a eu l'ombre du succès de celui-ci. Dragon Slayer 2, par exemple.
Ça restait un... Enfin, moi, je sais que dans mon image d'enfant, d'ado, enfin de début ado, c'était quelque chose de... On prenait le contrôle d'un dessin animé, on était dans le fantasme.
Je me rappelle qu'on avait eu à l'époque des adaptations très mauvaises sur Amstrad et compagnie, des portages, mais qui n'avaient rien à voir. Et puis il y avait les Amiga, plus tard Atari ST, qui ont commencé à avoir des adaptations fin des années 80, à peu près correctes sur 10 disquettes, je ne sais plus combien de disquettes où il fallait comme ça. Qui ressemblait un petit peu à la bande d'arcade. Mais voilà, il y avait aussi les machines domestiques qui suivaient après.
Sale derrière.
Alors, on est dans une période, 1984, qui n'est pas la pire des années, n'est-ce pas, Patrick?
Non, c'est une belle année.
Mais alors, 1984 est une année assez étonnante parce qu'elle est entre la crise américaine, qui n'est toujours pas résolue, et elle est avant l'exportation en Occident de la Famicom, qui est sortie au Japon et qui deviendra la NES ou la NES partout,
la NES,
non
ouais.
Oui, c'est la Nintendo
en Occident,
en France. Mais en 1984, on est encore sur le micro.
Débarque en force, il se développe. On en parlait tout à l'heure. Il y a une floraison de micros, c'est une explosion. Il suffit de relire les tilts de ces années-là. Il y a un micro en test, ou deux, ou trois par mois, avec les arrivées de machines. On se rend
compte. C'était les ZX, Spectrum.
Mais encore,
c'est le trio du panier.
C'est une bonne carte, parce que lui, tu l'achetais, tu restais 5 ans à jouer dessus. Ouais. Je schématise, mais on se rend plus compte aujourd'hui. On est sur un marché aujourd'hui plutôt standardisé, dire, avec les consoles, le PC, le Mac, voilà. À l'époque, tous les mois, des nouveaux formats complètement extraterrestres débarquent, avec chacun des propositions intéressantes. Ils ont chacun des arguments, le prix ou des innovations technologiques. On ne sait pas s'ils vont tenir, parce qu'il faut savoir si les éditeurs vont suivre. Il y a une telle floraison de formats que c'est un casse-tête pour les développeurs.
Entre eux, évidemment.
Ils sont compatibles. Donc chacun essaie d'imposer un format.
Les trucs qui tournent sur MO5 ne tournent pas sur Auric Atmos, ZX81, ZX Spectrum, le Commodore 64. Moi, je me rappelle, à m'être fait avoir, j'avais acheté un jeu pour Commodore 128 sans faire exprès. Oui. Ça ne marchait pas sur le Commodore 64, évidemment.
Si il était spécifique 128, ça posait problème.
Une cassette.
C'était des années de... Alors aujourd'hui, on le regarde avec un intérêt historique, parce que c'est intéressant de voir cette floraison, ces expérimentations. À l'époque, c'est chaotique, parce qu'on peut acheter un Alice 32 et puis se rendre compte, 6 mois après, qu'il n'y a pas de jeu, que ça suit pas.
T'as dépensé 1300 francs, et finalement...
Et puis, il y a les bonnes cartes, tu parlais de ZX, donc lui, cartonne en Angleterre, mais il a aussi un public en France, il tient bien. L'Amstrad fait un carton, le Commodore se tient bien de façon internationale. Voilà, il faut miser sur la bonne carte. Alors c'est le cas pour les utilisateurs, il faut miser sur la bonne machine, mais aussi c'est un vrai casse-tête pour les éditeurs, pour les développeurs, de dire sur quelle machine je marche. Je commence sur l'Oric, qui est une machine assez réduite en termes de puissance, mais qui a un petit succès, qui marche bien. Puis vite, on la suit quelques années, puis hop, il va falloir passer à d'autres choses parce que l'Oric tombe et l'Amstrad prend la relève, le Commodore.
Et être prêt à porter son jeu très vite.
C'est des moments où il faut être très réactif, quelque chose qu'on connaît encore aujourd'hui parce qu'on a aussi des cycles aujourd'hui toujours qui sont là, mais c'est un peu moins prononcé. En tout cas, ça se calcule plus en semaines ou en mois comme à l'époque où c'était très chaotique.
Sorties, vraiment,
mais en même temps, la micro, c'est une révolution. Quelque part, ça amène le jeu vidéo avec une ouverture sur d'autres choses. On peut tapoter du basique, on peut programmer, ça va aussi faire venir des vocations de développeurs qui vont commencer à ce moment-là à bidouiller des jeux, à réfléchir à des gameplays, des choses comme ça. Et puis, ça va amener aussi toute une vague de jeux développés un peu en mode garage par des petites équipes via ces micros qui rendent... C'est plus facile de bosser sur ces micros de façon locale que sur des consoles qui sont quand même fermées, qui sont plus difficiles d'accès. Et puis ça va ouvrir toute une vague de développeurs indépendants qui vont ou de petits studios d'édition qui vont lancer des jeux.
Alors 1984, c'est Elite, donc mais on en a beaucoup parlé régulièrement avec des versions récentes
où on peut parenté
explorer comme ça
par les mêmes développeurs la galaxie,
c'est vraiment l'œuvre d'une vie.
C'est intéressant de voir que certes, il y a pas mal de titres dont on parle dans le livre qui sont toujours là aujourd'hui, qui ont eu une évolution, qui ont eu des progressions, qui sont transformées, mais qui sont toujours là.
Et le début de ce qu'on a appelé, en règle générale, le point and click ou le jeu d'aventure comme ça avec King Quest. Le jeu d'aventure graphique avec King Quest et ce truc absolument incroyable qui est l'Aigle d'Or, sorti sur MO5. Moi, c'était pas chez moi parce que j'avais pas de MO5, mais j'allais chez un copain et on... Les torches, il fallait trouver les torches.
On commence vraiment dans ces années-là, c'est intéressant, ce titre-là, donc français, qui synthétise le rapport graphique à l'aventure. C'est-à-dire qu'on commence vraiment à avoir des aventures qui jouent entièrement de façon graphique. C'est-à-dire que les racines sont avant tout dans le jeu textuel, où on rentrait les phrases, les commandes, c'était génial, mais ça demandait souvent de connaître l'anglais, et puis de comprendre l'analyseur syntaxique, ça demandait une certaine...
Il y a une part de frustration aussi quand t'arrives pas à interagir avec ta machine.
Il fallait plus se battre avec l'analyseur, etc., qu'avec le jeu. Et puis là, on commence vraiment à avoir comme ça des fulgurances graphiques où on commence avoir ce rapport avec un alter ego qui est représenté à l'écran, qu'on va pouvoir manipuler. Et ça développe un autre rapport à son personnage, à l'environnement du jeu, et puis à la manière de vivre une aventure graphique. Et ça, c'est un de ces jalons importants. Tu disais, il y a King's Quest qui commence aussi à la même époque à vraiment imposer un nouveau rapport à l'environnement, aux énigmes, aux personnages qu'on va rencontrer. Et ça, c'est vraiment important parce que ça va vraiment ouvrir sur tout ce qui va suivre à l'avenir, sur vraiment l'avènement du point and click quelques années après avec Maniac Mansion, tout ce qui va suivre. Mais vraiment, on sent qu'il y a une révolution graphique qui arrive et qui va faciliter aussi. Je pense que c'est des titres aussi qui sont plus accessibles. Alors, pareil, aujourd'hui, ça peut paraître aberrant de dire que c'est plus accessible parce que si on les lance aujourd'hui, c'est pas forcément facile d'y rentrer. Mais à l'époque, il y avait une vraie porte d'entrée plus simple, d'accessibilité sur des titres comme plus graphiques.
Souvent, c'était graphiquement le haut du panier de la production et que t'avais quand même un rythme plus lent qui pouvait intriguer un peu tout le monde en fait. Mm-hmm. Vraiment plonger dans une histoire et pas uniquement dans, on va dire, un jeu de combat ou ce genre de choses. On sort vraiment de l'arcade.
Et l'Aigle d'Or, c'est le grand spectacle à l'époque quand on lance ça.
L'événement quand même, si on devait faire une hiérarchie, on pourrait pas ne pas mettre l'événement de 1985 comme étant l'événement peut-être majeur de la décennie. C'est compliqué, de 30 ans plus tard, on peut pas dire... Enfin, s'il y avait un événement dans les années 80, ce serait 1985, la sortie de Super Mario Bros. Qui relance... Enfin, qui permet au Japon de s'imposer direct, de montrer une importance sur l'économie du jeu vidéo, de relancer le jeu vidéo aux États-Unis et d'imposer directement la première, enfin pas la première parce qu'il y a eu l'Atari 2600, mais la nouvelle console majeure importante pour pratiquement la décennie à venir. Hein,
pour la planète entière.
Et pour la planète entière, donc la NES, la Famicom et donc la NES. Donc Super Mario Bros. 1985.
Qui a une date historique incontournable. Même s'il faut savoir qu'il y a toujours ce petit décalage, c'est-à-dire que en France notamment, on commençait à avoir les micros 16 bits, on avait l'Amiga, le ST qui arrivait, et même dans la presse, on disait attention, oui, bon, bah c'est bien Mario, mais c'est pas forcément aussi beau que ce qu'on a sur le. Je pense qu'il a fallu un certain temps pour comprendre la richesse de ces jeux-là, toutes les astuces, le gameplay évidemment qu'on va pas refaire ici, on va pas revenir sur les qualités de gameplay qui sont incroyables, mais tout ce qui est richesse d'objets cachés, de rejouabilité, etc.
Oui, ça veut dire qu'il y avait pas cette conscience-là dès le début.
Non, très clairement. Enfin, ce que me disait aussi Jacques Arbonne, c'est qu'à l'époque, quand ils ont vu débarquer les consoles japonaises, donc que ça puisse être la Famicom ou alors même la console de Sega, effectivement, la Master System, c'est juste. Non, mais elles sont sympas ces machines, mais t'as vu quand même le micro qu'on a. Enfin, c'est comme ça qu'il me disait le truc.
On avait des jeux qui arrivent.
Enfin, on a des jeux qui sont mieux que ça. Alors, tu vois, 30 ans plus tard. Que Mario, malgré tout, a mieux survécu que l'Oric ou ce genre de machine. Mais visiblement, à l'époque, même du point de vue des gens qui bossaient là-dedans au jour le jour, ça paraissait pas forcément si évident.
Oui, bien sûr.
Et c'est vrai que maintenant que vous le dites, je devais faire partie de cette catégorie-là qui regardait la NES avec un petit peu de, dédain.
Tu te rends pas compte, en fait. Tu dis oui, bah
la
oui.
La micro avançait tellement vite que, voilà, ouais. On disait bon, bah, il a fallu le temps pour comprendre qu'il y avait une vraie richesse.
D'ailleurs, même année, Commando, en micro, c'est le jeu de tir, c'est graphiquement très, très impressionnant, coloré. On s'est pas beaucoup attardé sur Super Mario Bros. Parce que ça fait partie de l'histoire, quasiment l'histoire collective. Hein, oui. Donc c'est.
Qui reste toujours très sympa à jouer, mais je l'ai lancé. Et ça marche
toujours.
Je regarde
sur l'écran, là, j'ai envie d'y jouer.
Des grenades.
Et puis, c'est pareil, c'est intéressant de voir. Alors, Commando en arcade, évidemment, pareil, c'est une date, il impose un nouveau genre, mais il faut revoir si toutes les flopées d'adaptation qu'on a eues sur tout. Il a été partout, Commando, sur les micros. Et il tenait plutôt bien la route. Il était plutôt. Il avait bien, même sur Amstrad, moi j'y jouais sur Amstrad à l'époque, il tenait plutôt bien la route, on retrouvait le gameplay, etc. Et c'est un jeu qu'on peut refaire aujourd'hui parce que il est pareil, c'est la quintessence d'un genre finalement. Il est très simple à jouer et bon, il faut un peu de technique. Mais je trouve qu'il embarque une dynamique qui tient vraiment.
Alors j'ai peur du suivant parce qu'on va quand même essayer d'arriver jusqu'en 1989. Hein, alors le problème c'est ça. Il y a un escalier, on se sent obligé de marcher sur toutes les marches. Et il y a un moment, il y a la marche et tu te dis ah ouais mais là on va rester collé là parce qu'en 1986 il y a Defender of the Crown. Ouais, voilà donc j'ai pas envie. Voilà un moment. Est-ce que tu peux parler des fois? Non, mais CinemaWare.
C'est une date, évidemment que c'est une date, parce que pour moi, c'est un des premiers. Justement, on parlait des 16 bits, et c'est intéressant pour moi, ce studio CinemaWare qui très vite comprend ce que vont apporter ces machines. C'est marrant parce qu'on parle de Super Mario Bros. Qui arrive, et qui est fondamentalement un excellent jeu, et qui est en train de révolutionner, dans le fond, pas mal de choses de gameplay, d'imposer vraiment une rigueur de jeu qui est quand même incroyable et qui marche toujours aujourd'hui. Et en même temps, on a des gens qui réfléchissent justement à ces micros surpuissants qui arrivent et qui vont permettre de nouvelles mises en scène, qui vont pouvoir se rapprocher du cinéma notamment. CinemaWare a cette idée fabuleuse de se rapprocher de tous les codes de l'âge d'or du cinéma et de convoquer comme ça tous les genres classiques, Ivanhoe, Rocket Ranger, tous ces jeux qui vont avoir... qui vont vraiment chercher à exploiter ce que permet l'Amiga, l'Atari ST aussi, donc ces machines surpuissantes pour l'époque, qui vont permettre dans chaque titre, on va dire, allez, pour faire simple, un tronc principal de stratégie, et puis plein de séquences d'arcade très richement mises en scène, avec vraiment un souci du détail, et ça on voit, quoi. Enfin, c'est des vraies démos technologiques de l'époque qui montrent que le jeu vidéo a aussi des prétentions de mise en scène, et qui va pouvoir aller se frotter plus tard au cinéma. Et c'est ce qui m'avait fasciné à l'époque quand j'ai vu ces jeux sortir. Et encore aujourd'hui, quand on les regarde avec le recul, 30 ans plus tard, on se dit, mais ils avaient compris que le jeu vidéo allait pouvoir aller chercher des choses au cinéma. et voilà, emprunter des, créer ses propres codes en s'inspirant de d'autres médias, mais aussi en montrant que bah, qu'il était capable de.
Très généralement, ce que t'as dans quasiment tous les jeux à l'époque, c'est une poignée de développeurs qui arrivaient à trouver, on va dire grossièrement, j'aime pas trop le mot, mais un gameplay, et qui vont dérouler après et se plier à certaines exigences, un certain nombre de niveaux, ce genre de trucs. Là, on a affaire à un jeu qui a, j'ai envie de dire fait main, en fait, parce que les mecs réinventent constamment ce que tu vois à l'écran et se paient le luxe, finalement, de te surprendre, même après plusieurs heures de jeu, en apportant un nouveau truc que tu n'avais encore jamais vu, même au sein de ce jeu-là. C'est très. Enfin, c'est vraiment.
Ouais, et puis c'est un jeu majestueux, Defender of the Crown. Quand on le lance aujourd'hui, quand on sait ce qui se faisait à l'époque et quand on le remet un peu en perspective par rapport à ce qui se faisait, on se dit bah ouais. Là,
c'est quand même un sacré voyage.
C'est Dream Team qui avait été réuni pour faire ce jeu, qui tirait vraiment le. Voilà, qui cherchait vraiment à chercher le meilleur de l'Amiga.
J'ai mis le nom, mais juste pour me faire plaisir. Hein, moi, il y avait un jeu qui m'a fasciné dans ces années-là. Je ne sais pas si j'ai joué l'année même ou après. C'est Rampage. Je sais même pas pourquoi il m'a fasciné autant, mais Rampage en console d'arcade, il y avait quelque chose d'absolument incroyable de jouer soit Godzilla, soit King Kong, soit il y avait un troisième, je ne sais plus.
Un loup-garou, je crois.
Oui, voilà, le loup-garou géant, exactement. Et on pouvait tout détruire. J'ai jamais compris le but du jeu.
Non. C'est tout détruire.
Il faut tout détruire et marquer le plus de points possible.
J'avais l'impression qu'il y avait un game over qui arrivait, on savait pas trop pourquoi, on mangeait les gens, c'était très drôle.
Pure catharsis. Enfin, c'est du pur jeu vidéo catharsis.
Moi, je mettais, je sais pas, un ou deux francs, mais juste pour me défouler. Enfin, il y avait un truc.
Il y a une en film qui arrive et ça va.
Ça va piquer. 87, on va avancer vite vers 89. 87, c'est un peu la consécration du Japon avec deux titres absolument, enfin, qui vont aussi marquer, hein, Megaman d'un côté et The Legend of Zelda de l'autre. C'est.
Des styles radicalement différents, mais ouais, effectivement. Donc Zelda, la simplification extrême du RPG qui revient à un truc qui marche plus fluide en fait, qui s'embarque plus dans du texte à ne plus en finir, et Megaman qui trouve une formule pareille très 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 difficile, mais où tu sens vraiment que chaque pas, chaque plateforme a été pensée, où vraiment les ennemis sont pas placés au hasard du tout. Où tu sens très bien qu'ils arrivent par vagues, que tu arrives à lire des patterns au bout d'un moment, et que vraiment tu sens qu'il y a vraiment une espèce de. C'est vicieux derrière. Il y a des gens qui veulent ta mort, et toi, du coup, t'as envie de surmonter ça.
Ouais, ouais. Et alors, 88, on arrive vers la fin de la décennie. 88, c'est l'arche, on peut pas ne pas le citer, hein, l'arche du Captain Blood.
Pour moi, qui est un tournant, c'est là où je pense qu'il y a vraiment. Il y a une patte artistique vraiment très particulière qui s'inscrit. C'est un jeu pour moi qui a vraiment un.
On part loin avec ce jeu, quoi.
On part très loin, et je trouve qu'il apporte vraiment une vision d'artiste, une vision d'auteur. Il apporte vraiment tout un univers qui va plus loin que ce qu'on voit à l'écran. Enfin, il a cette capacité à créer un monde entier qui, pour moi, qui pose un jalon aussi dans ces années-là où, là encore, des technologies qui deviennent un peu plus confortables, qui permettent à des créateurs de se faire plaisir et enfin de pouvoir donner à l'écran ce qu'ils avaient sûrement en tête depuis quelques temps. En tout cas, je pense que ça, il y a des déclics grâce à la technologie chez les créateurs qui disent ça, on peut le faire. Voilà, on peut y aller, on va pouvoir mettre
aujourd'hui,
en image.
C'est bon, on peut faire ça.
Une sorte d'opéra comme ça à l'écran.
Incroyable.
Et c'est vrai qu'il est toujours aussi incroyable quand on le voit tourner. Pour l'époque, c'est. Ça fait partie de ces jeux qui vraiment, à l'époque, apportent quelque chose de fulgurant et de marquant.
Et puis, finalement, il y a cette année 89, qui finalement, moi je trouve, justifie à elle seule le livre, enfin, en fait, le propos du livre. C'est-à-dire de dire, les années 80 sont les années où le jeu vidéo s'est construit. On part avec un matériau de base qui vient des années 70, et puis on va construire le jeu vidéo jusqu'en 89. Et là, quand on regarde 89, et quand on voit 89, et on comprend finalement 89 introduit la décennie suivante, qui est la décennie de l'installation des genres qui se définissent, etc. Mais 89, c'est là où ça pète dans tous les sens.
On s'est amusé, on avait pris l'angle de se dire tiens. Pour l'année 89, on va se dire qu'est-ce qu'on attendait lorsqu'on arrivait en 89, qu'est-ce que l'avenir pensait nous réserver, et puis finalement, qu'est-ce qui est arrivé. Parce que je pense qu'on a tous fini ces années-là en disant que des portes s'ouvraient, comme on disait, ça a été une décennie tellement riche que On avait même du mal à se projeter, en fait. On avait quelques bribes d'informations. On avait des constructeurs qui commençaient à monter en puissance. On avait des micros qui arrivaient aussi à un firmament. Et on s'est replongé un petit peu dans l'image qu'on avait en 89, peut-être de l'avenir du jeu vidéo, et puis qui était de l'avenir du monde. On peut aujourd'hui confronter avec la réalité de ce qui s'est passé. Donc il y a des choses qui étaient assez justes, et puis d'autres qui ont été complètement transformées. Par exemple, moi je me rappelle que dans ces années-là, on se disait le duel Amiga ST va perdurer. Enfin, ce sont des machines qui vont rester. En 2017, on sera tous sur un Amiga.
Deux ans plus tard, il n'y avait plus personne.
Puis, voilà, exactement. Ça a été pour moi un choc quelques années après de se dire non, c'était fini, terminé, le PC a tout écrasé.
C'est un
détail, mais c'est assez significatif de la manière dont les cartes ont été très vite rebattues. Voilà, on pensait voir une certaine évolution, et tout est tout le temps. Mais ça, c'est l'industrie du jeu qui fait ça. Et là, c'est vrai que c'était un rythme tellement accéléré dans ces décennies-là que c'est passionnant de voir comment des choses qui nous paraissaient évidentes ont été complètement transformées.
C'est vraiment un carrefour technologique. C'est-à-dire que tu peux avoir à la fois des technologies sur CD, tu peux avoir des portables en écran couleur, tu peux avoir ce genre de choses, mais le jeu vidéo c'est devenu une industrie, c'est plus seulement une œuvre d'un créateur isolé qui va réussir à sortir son jeu dans le commerce. On a vraiment derrière, malgré toutes les technologies disponibles, la console qui marque un peu l'année, c'est le Game Boy. Ouais. Et tu te retrouves à jouer sur monochrome, à suivre finalement le jeu que Nintendo veut bien imposer pour toi. Il y a une industrie qui s'est posée et maintenant c'est vraiment. Il n'y a plus vraiment de place.
C'est marrant, là, vous avez fait le choix par exemple de mettre Tetris en 89 parce que c'est en 89 que tout le monde a connu Tetris.
Ouais. Oui, ça fait partie aussi du voyage, on va dire, un peu rétro vers les années 80. C'est d'essayer, ça confond un peu à la fois, on va dire, des dates, donc un calendrier qui est fixe, Tetris c'est telle date, c'est 84, seulement t'y as sûrement pas joué en URSS en 84, donc ça paraissait plus, on a trouvé sa logique tout en le mentionnant dans le papier, c'est arrivé pour quelques autres jeux d'ailleurs dans le bouquin, mais de le placer en 89 sur Game Boy, parce que je pense que notre lectorat est en français, a priori. Je pense qu'il se retrouvera mieux dans cette espèce de réalité.
Et c'est intéressant, peut-être pour conclure là-dessus, c'est de voir comment on débute l'année la décennie sur des. On sent que le média est un peu balbutiant. On parle de la crise de 82-83. Tu en parlais tout à l'heure, on a eu l'impression que ça aurait pu être une mode qui allait s'arrêter, parce que ça pouvait pas s'arrêter en 85-86, parce que. Et quand on arrive en 89, moi-même, en tant que joueur à l'époque, on sentait que non, c'était pas une mode. Au contraire, il y avait le CD, comme tu dis, le CD-ROM qui arrivait, il y avait plein de technologies, ça explosait dans tous les sens, toutes n'ont pas survécu et il y a eu plein de choix, plein de choses qui sont faites, mais on sentait que ça commençait à devenir, comme tu dis, une industrie et que tout l'avenir était encore dans le jeu vidéo. Enfin, ça se sentait dès 89. C'était vraiment une période excitante, je trouve, parce que même dans les productions, on voyait les Bitmap Brothers qui explosaient qui poussaient très loin les performances des machines. Voilà, tout l'avenir était là. Et c'est vrai que c'est vraiment une année 89 assez.
Mais 89,
assez
il suffit de lire les jeux dont vous parlez. Mais 89, c'est Populous. 89, c'est Prince of Persia. Tetris sur Game Boy. C'est SimCity. C'est Les Voyageurs du Temps.
Un choc aussi.
Voilà, mais on voit déjà, c'est aussi une année où on commence à sentir qu'il y a un potentiel, il y a un truc où toutes les limites que le jeu vidéo avait intériorisées commencent à exploser petit à petit.
Les genres se mettent en place, s'identifient vraiment.
Là, ça part vraiment dans tous les sens en termes d'expérience de jeu entre Populous et Les Voyageurs du Temps. On a quand même deux visions très différentes.
Mais qui restent aujourd'hui des références, qui restent des genres finalement. Ouais. On commence vraiment à creuser des genres qui vont rester pour les décennies à venir. C'est là où c'est important, c'est qu'on voit vraiment des catégories de jeux, des familles qui vont perdurer en fait.
Qui vont se construire après se construire dans les années 90.
Et là, on pose des jalons vraiment de genres vraiment capitaux qui vont accompagner l'histoire du jeu vidéo.
Des Prince of Persia, c'est quand même une année dingue.
Moi j'en garde des souvenirs. C'était vraiment excitant de se demander ce qu'allait devenir ce média encore.
Alors, Ça fait quoi d'avoir pendant plusieurs semaines replongé dans ces... Enfin, est-ce que tu en es déjà sorti, Patrick? C'est la question. Hein, c'est la vraie question.
Non, c'est ce qui est intéressant. Enfin, moi, je parle.
Enfin, parler des années 80.
Je parle pour ma paroisse, mais non, ce qui est intéressant, c'est de. C'est vrai qu'on en parle. J'en parle souvent ici lors de l'émission. Souvent, je fais des remarques sur les années 80 parce que, comme je le disais, ce sont des années qui m'ont marqué parce que c'est là où je suis venu aux jeux vidéo. Moi, ce qui a été intéressant en parlant avec Sylvain, en remettant à plat un petit peu. Ces 10 ans, c'est de voir, justement, en concentrant comme ça, en mettant à plat dans un livre tous ces titres, l'évolution, c'est de voir cette richesse de créativité, de tendance, de d'émergence de genre, de...
Même juste en posant à plat, on va dire, le nom des jeux, le nom des constructeurs, ce genre de choses, et en essayant de regarder ça de façon chronologique, parce que c'était une question pour nous, pourquoi est-ce qu'on fait ça de façon chronologique, c'est de voir que finalement... Ça racontait vraiment une histoire, en fait, de mettre ces jeux-là les uns à la suite des autres. Il y a beaucoup de papiers, certes, qui nous sont chers et qu'on a mis, on va dire, quasiment par pur affect. Mais ça, il y en a quelques-uns. Mais il y a surtout beaucoup de jeux de première fois. Des jeux qui,
veut ça aussi. Ouais, c'est vrai que c'est l'époque qui...
Effectivement, je sais pas, un continu qui vont introduire ce genre de petites choses. Tu vois, la première fois qu'il y a une espèce d'easter egg dans un jeu. Et c'est marrant de voir ça, qui finissent par arriver donc en 89 à un jeu vidéo qui est, on va dire, la somme de toutes les toutes petites avancées qu'on a pu voir avant un peu partout dans le travail qu'on a fait. Et ça, quelque part, c'est gratifiant d'avoir réussi à remettre un peu ce genre de truc-là en perspective.
Non, c'est clair. C'est encore une fois, c'est une décennie très fondatrice. C'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher aujourd'hui, même quand on aborde un jeu d'aujourd'hui, de toujours me remémorer, comme tu disais, il y a toujours des petites choses qui sont apparues dans ces années-là, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans certains titres.
Ouais,
et qui, voilà, beaucoup de choses sont apparues là. Et je pense que c'était important de...
Moi, ma découverte, enfin, c'est une période aussi que je connais mécaniquement. Mais finalement, ma découverte en lisant votre livre, c'est aussi que s'intéresser aux années 80, on n'est pas... C'était peut-être une idée reçue que j'avais, qui restait encore au fond de ma tête. C'est pas que de la nostalgie. En fait, il y a l'effet Madeleine qui est là, forcément, mais on voit, enfin, c'est assez marrant de voir comment il y a des mécaniques qui se mettent en place, qui définissent ce qu'est le jeu vidéo aujourd'hui. En fait, après, il y a celles qu'on connaît, Nintendo qui contrôle les jeux qui vont sortir sur sa console, il y a les genres, il y a la construction des game designers, enfin, la première répartition des tâches au sein de studios, il y a des choses comme ça, la presse, il y a tout un écosystème comme ça qui prend ses racines là.
La naissance des réseaux de distribution qu'on montre aussi par rapport à la constitution parfois de réseaux pirates, ce genre de choses. Mais je pense que vraiment, si dans ce bouquin il avait été question que de nostalgie, on l'aurait pas fait. J'aurais ouvert un blog, tu vois, j'aurais pas vendu ça.
Donc, on va faire quand même un petit instant promo parce que si vous n'avez pas backé sur Kickstarter le livre, il sera disponible, ou il est, ou il sera disponible sur le site de JV.
Dans les jours prochains.
Merci. À tous les deux d'avoir parcouru, d'avoir voyagé dans le temps. C'était notre passage Stranger Things à nous. On revient dans les années 80. Mais non, parce que dans Silence on joue, c'est un peu tout le temps un voyage dans les années 80.
Parce qu'elles sont fondatrices et elles ne nous ont jamais quittés. En fait. Nous sommes tous des enfants des années 80.
Exactement. Merci à tous les deux. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi?
C'est une bonne question là.
Patrick, est prêt.
Je vais rester en lignée. Moi. Je me suis vraiment fait tout un travail d'imprégnation années 80. Je me suis replongé. Donc je suis allé voir Dépêche Mode à Bercy début décembre. Très très bonne surprise. Alors moi, je les ai vus plusieurs fois à Bercy. J'avais été un peu déçu des derniers concerts. Je trouvais qu'ils étaient un peu en mode automatique. Et là, je trouvais qu'ils avaient une pêche sur scène. C'était génial. Ils ont repris tous les grands tubes des années 80, évidemment. On est vers Let Me Down Again, Enjoy the Silence, début 90. Enfin, tous les classiques. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'ils ont repris pas mal de titres d'un album que j'aime beaucoup. C'est Ultra de 97. Ah, j'aime bien. Voilà, c'est les années 90. Pour moi, c'est un des grands, grands albums. Pas forcément le plus connu de Dépêche Mode, mais qui est vraiment intéressant. Un album assez sombre et assez, assez torturé. Ils en ont repris beaucoup de titres, et ce qui se fait rarement sur scène, donc vraiment, et puis un très beau spectacle. Donc voilà, Dépêche Mode. Voilà.
Ça tient encore.
Ouais, ouais, ça tient encore, plus là, que ouais. jamais même. Ouais, très très bien.
Donc Sylvain, tu as eu le temps de réfléchir.
Ouais, j'ai
tu
le temps n'as pas réfléchir. Écouté Patrick. Ouais, j'ai vu récemment Vampire en toute impunité, qui est un film qui vient de sortir sur Netflix, qui est sur Netflix depuis peu de temps. C'est un film australien qui est filmé comme un documentaire, donc dans une colloque de vampires, donc c'est quatre vampires qui sont ensemble. C'est des situations assez cocasses. Déjà, le film est très drôle en lui-même, mais en plus, donc ce film qui est filmé à Wellington, là, a été transposé dans la VF, que je vous recommande pour le coup, a été traduit par les gens du message à caractère informatif. Et donc dans l'univers du message à caractère informatif, donc les mecs bossent à la COGIP et ça se passe à Limoges.
Oh,
et donc les gars sont en train de montrer des cartes de l'Australie et soudain ça devient la carte de Limoges. Oui, on a un peu changé les perspectives. C'est à mourir de rire. Déjà le fond est absurde, la traduction est absurde aussi. Il faut voir ça. Vampire en toute impunité, le titre est nul, mais le film est brillant.
Moi, j'ai vu, alors je suis désolé, ça fait aussi un peu promo, mais bon, c'est notre activité perso, mais c'est aussi sur Netflix, mais c'est la première série allemande de Netflix, hein, Made in Germany, qui est Dark, qui est super intéressante, qui parle aussi des années 80, d'une manière totalement différente, qui n'a rien à voir avec Stranger Things, et qui est pour moi une... qui suis un nerd des voyages dans le temps. Enfin, je supporte pas les films des voyages dans le temps parce que j'arrive toujours à m'énerver sur un truc qui va pas. Et en fait, il y avait un film qui réussissait à garder mon estime, qui est L'Armée des Douze Singes. Et Dark arrive pratiquement, pas loin en tout cas de ça, dans une sorte de rigueur dans son propos. Mais ça vaut vraiment le coup. C'est super, super bien fait. Voilà. Même si on est obligé de lire les sous-titres quand on ne comprend pas un mot d'allemand comme moi. Mais voilà, c'est pas grave. Merci encore une fois à tous les deux. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, on se retrouve la semaine prochaine. Je l'annonce d'ici, dès maintenant, pour cette fin d'année sur nos lives sur Libération et sur les internets. Ciao.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.